France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Et en ce 1er mai, jour de marche syndicale dans toute la France, une émission consacrée à la randonnée pédestre, sans doute l'une des activités préférées des Français. Nous serions environ 27 millions à pratiquer la marche à pied, mille et une façons de marcher, à la montagne, dans un parc, avec son chien, marche nordique, marche afghane. On marche pour mille et une raisons, pour préserver sa santé, prévenir certaines pathologies, se muscler, juste pour le plaisir. Pour réfléchir, méditer, se vider la tête. Toutes les raisons de marcher sont bonnes. Nos invités partageront des conseils pour faire d'une simple marche un moment extraordinaire. Et vous, racontez-nous votre randonnée de rêve. Pourquoi aimez-vous marcher? Quels sont les endroits où vous aimez mettre un pied devant l'autre? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France où vous pouvez laisser messages et notes vocales. Une émission en partenariat avec le mensuel Notre Temps. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebbi.
La marche est une activité qui fait advenir à la conscience énormément de, comme ça, comme un flux parfois continu de pensées, d'idées les plus diverses, comme le sommeil, la marche, ou comme l'alcool peut-être, ou comme divers ingrédients comme ça. La marche est un euphorisant, clairement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui biologiquement, surtout au bout de quelques jours comme ça de randonnée, c'est tout à fait hormonal si on veut. Et donc oui, c'est aussi un piège pour la pensée. Hein. C'est-à-dire que parfois ça va trop vite. Hein. Parfois on ose aussi se dire un petit peu n'importe quoi. D'une certaine manière, on expérimente la pensée en marchant. Le rythme de la marche est vraiment quelque chose qui est tout à fait favorable à ça. Voilà, on sait qu'on a du temps en plus, et donc on peut expérimenter la pensée. Et bon, parfois, ce sont des simples divagations, et quand on relit ses carnets de notes, c'est vrai que parfois, on n'est pas tout à fait fier de ce qui vous a traversé les esprits.
L'un des multiples bienfaits de la marche raconté par l'historien Antoine de Bac sur France Culture le 17 juin 2018. Bonjour Sylvia Pinoza, bienvenue.
Bonjour Ali.
Vous êtes rédactrice en chef du mensuel Notre Temps et vous proposez un excellent hors-série santé et bien-être intitulé Marcher, mon atout santé. Bonjour Laurent Tillon.
Bonjour Ali.
Vous êtes biologiste et chiroptérologue.
Chiroptérologue,
c'est quoi exactement?
Spécialiste des chauves-souris, voilà, qui vient de chiroptère, chiros, la main, ptère, l'aile.
Chargé de mission à l'Office national des forêts, vous aviez publié en 2021 chez Actes Sud « Être un chêne sous l'écorce de Quercus ». Bonjour Frédéric Montoya.
Bonjour, merci de votre invitation.
Vous êtes le président de la Fédération française de randonnée, combien d'adhérents?
240 000 à la date d'aujourd'hui, dans 3 500 clubs.
Bonjour Hugues Lebêtre.
Bonjour.
Vous avez été président de Boursorama et vous publiez aux Arènes Le chemin de soie, une traversée des Pyrénées par le GR10. Et le Pyrénéen que je suis est très sensible au paysage que vous avez traversé, que vous racontez dans ce livre. Alors Sylvia Spinoza, la marche c'est un moyen de se rapprocher de soi et des autres, qu'elle soit solitaire ou collective, la marche favorise les émotions agréables. Hein.
Ah, tout à fait. Et puis nous avons interrogé de nombreux lecteurs qui nous ont raconté leur histoire personnelle autour de la randonnée. Alors c'était avec leurs petits-enfants, avec leur mari, avec eux-mêmes. Donc ils racontent chaque fois le plaisir de marcher qui crée des liens, qui crée des liens forts, puissants avec la nature et avec les autres.
Et on verra au cours de cette émission qu'il peut y avoir des entraves à ce plaisir quand on choisit les mauvaises chaussures, la mauvaise tenue ou le mauvais sac à dos. Hugues Lebret, vous avez donc traversé les Pyrénées seul. Et je vous cite, « Marcher seul pour apaiser puis doper mon cerveau, me permettre de connecter les trésors enfouis en moi, me retrouver en quelque sorte. »
Oui, j'avais voulu vivre l'expérience qu'avait décrite Axel Kahn dans ses livres « Chemin » notamment, le grand généticien. Et il montrait ce qu'on écoutait tout à l'heure de l'historien, c'est que quand on marche, on gamberge plus, le sang circule, etc. Et on pense plus. En tout cas, on a des pensées qui sont plus profondes et qui partent en arborescence dans tous les sens. Mais surtout, ce qui m'avait interpellé, c'est que quand on marche seul, on ressent tout beaucoup plus fort, que ce soit tous les sens, et on décuple les émotions. Et du coup, on a des moments d'extase, des moments de sublime. Et j'ai eu envie de voir si ça marchait sur moi. Et du coup, j'ai marché 5 jours seul. Et j'ai trouvé ça extraordinaire dans les Pyrénées, puisque j'habite à Saint-Jean-de-Luz maintenant. Et j'ai décidé de traverser les Pyrénées à l'été 2023.
Et vous écrivez cette chose très belle, Hugues Lebret, « Marcher pour retrouver mon enfance ».
Alors ce qui est impressionnant quand on est déconnecté de tout. Alors on se reconnecte à la nature, mais quand on est déconnecté des informations, je suis désolé de dire ça sur une radio, des réseaux sociaux, des mails, du téléphone, puisque j'étais hors connexion complètement, eh bien, petit à petit, on redevient l'enfant que l'on était. C'est-à-dire qu'on n'est plus un statut social, on n'est plus un quartier, on n'est plus un métier, on n'est plus une profession. On est 100% soi et on retrouve et on rebalaye sa vie avec l'œil de l'enfant que l'on était. Et on a des émotions qui sont d'une force et qui sont d'une pureté. Le passage d'un col après 4 heures de marche et d'effort, et on découvre la vallée d'après avec le pic du Midi d'Ossau et le lac d'Aïus et le reflet dedans, c'est des moments d'une force qui sont absolument inouïs. Et du coup, c'est aussi l'occasion pour moi, à 60 ans, de refaire un point et de me dire, finalement, j'en suis, j'espère, aux deux tiers de ma vie, c'est peut-être de la flagornerie de penser ça, mais qu'est-ce que je fais de ces derniers tiers, ce tiers de liberté, de pleine conscience et de bien-être que l'on cherche tous. Et c'est ce que j'ai voulu décrire dans ce livre, au-delà de l'ode à la nature et des bienfaits de la marche.
Et vous, Frédéric Montoya, comment est né votre goût de la marche au point de devenir un jour président de la Fédération Française de Randonnée ?
Alors, figurez-vous que j'ai eu la malchance de naître avec un pied beau, et que mes parents, dans les années 60, ont bien soigné. Et c'est mon père qui m'a initié, à qui je rends hommage, 97 ans, et qui m'a initié à la montagne dans le massif des Écrins. Et je rejoins tout à fait mon voisin. Des moments intenses, quelle que soit la pratique de la randonnée que l'on a, des défis personnels, aller chercher un col. Mais hier, vous voyez, j'ai un peu bronzé. Là, j'étais en Seine-et-Marne, dans mon département. Et j'ai passé avec quelques amis des moments fabulés. Voir les blés commencer à onduler sous le vent. C'est des plaisirs simple et partagé, où on peut se retrouver. Moi, je marche essentiellement pour la convivialité, pour passer des moments intenses. Et je ne suis pas insensible à ce que vous dites, parce que j'ai marché seul aussi. Et ça, c'est vraiment une expérience très enrichissante, pour se retrouver, pour faire pratiquer un peu l'introspection.
On me demande souvent si c'est mieux. J'ai dit, c'est pas mieux, c'est différent.
C'est différent.
C'est deux expériences exceptionnelles.
Et vous, Laurent Tillon, quand vous ne marchez pas en forêt de Rambouillet pour des raisons professionnelles, que recherchez-vous quand vous randonnez ?
Il n'y a jamais une seule randonnée qui ressemble à une autre. J'y vais toujours avec un état de conscience totalement différent. Et ça dépend complètement du contexte. Vous voyez, le week-end dernier, j'étais par exemple dans le Vercors avec des amis. On a partagé 48 heures de randonnée au cœur des plateaux du Vercors. C'était des paysages absolument fabuleux. Et c'était plutôt la fraternité que j'allais chercher à ce moment-là. Et à d'autres moments, ça peut être soit l'inspiration pour l'écriture, pour la rêverie, pour l'imagination. Ça peut être aussi une envie d'aller à la rencontre des autres vivants qui nous entourent et puis de méditer sur la place que moi je peux prendre parmi tous ces vivants et trouver le juste milieu.
Alors on va parler essentiellement ce matin de la marche en milieu naturel, mais est-ce que vous éprouvez le même plaisir quand vous marchez dans des zones urbaines, en ville, Hugues Lebret ?
Alors, moi, pour m'entraîner, je faisais 10 000 pas par jour. C'est-à-dire 1h30 de marche, 3 fois une demi-heure dans la journée, quoi, c'est faisable. Et c'est incroyable parce que le corps est élastique. Et du coup, je m'entraînais en ville, en allant travailler, en allant d'un rendez-vous à l'autre. Et en fait, ça change le rapport à la ville aussi. C'est-à-dire que c'est très agréable de marcher en ville. On s'arrête devant une plaque, on voit une plaque commémorative, on dit, tiens, il y a tel auteur qui a vécu là, on regarde qui c'était, on rentre sous un porche, on découvre une cour, on va dans un parc. Et en fait, au lieu d'être pressé d'aller à un endroit ou à un autre, finalement, c'est le chemin qui compte. Et on prend du plaisir à ralentir le temps, y compris en ville. Donc même en ville, on a des très belles... Et d'ailleurs, il y a des sentiers de randonnée qui sont en ville. Et on a des moments de plaisir et des moments de lenteur qui sont très agréables.
Frédéric Montoya.
Oui, je confirme tout à fait. Ces 15 dernières années, la pratique de la randonnée a beaucoup changé. Dans le temps, on marchait 30 km avec 15 kilos dans le dos. On évitait ville et village. Maintenant, à chaque fois qu'on organise des randonnées patrimoine, où on va découvrir le patrimoine, vous pouvez être sûr que la randonnée est rempli. Et donc, on essaye, nous, de former aussi nos animateurs à une approche aussi architecturale, patrimoniale, etc. Je souligne aussi que nous avons développé un label qui s'appelle Balade à roulette, tout autour de l'inclusion, permettre sur des itinéraires particuliers à des gens en situation de handicap, en fauteuil de marché, mais aussi des gens avec des poussettes, sur des parcours qui sont sécurisés.
Frédéric Montoya, vous pouvez nous expliquer précisément ce qu'est la Fédération française de randonnée, comment on adhère, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme activité ? activité ?
Merci de cette question. À l'issue de la guerre, quelques personnes se sont retrouvées dans un conseil national des sentiers de grande randonnée, avec les fameuses marques blanches et rouges que vous connaissez tous. En 1978, mes des prédécesseurs ont pensé qu'il était temps de se fédérer en association sportive. Et c'est là qu'est née la Fédération de randonnée, qui dépend du ministère des Sports, même si on travaille beaucoup autour du tourisme. On rejoint des clubs, 3500 en France, 240 000 licenciés, et aussi on travaille sur la problématique d'aller chercher les publics qui n'ont pas le temps forcément d'être dans un club, les gens qui travaillent avec des enfants, etc. Et que depuis le Covid, on l'a vérifié, ces gens ont soif de marché, etc. Et donc on s'adresse aussi, peut-être toujours l'occasion d'y revenir, au travers de notre collection de topo guides, au travers d'une application, je crois que si je suis bien informé, je crois que vous l'avez téléchargée, l'application Marando, qui offre...
Redonnez le nom de...
L'application Marando, qui offre 10 000 parcours sur tout le territoire national, des parcours sûrs, entretenus, etc. Et donc, on a ces publics-là qui marchent sur nos itinéraires, et c'est très bien. Avec des problématiques, on en parlait à mon propos, de surfréquentation parfois. Et donc, il faut y veiller aussi à la préservation de l'environnement.
Et vous, Sylvia Pinoza, quelle marcheuse êtes-vous ?
Alors, je suis une marcheuse à la fois urbaine et en moyenne montagne. Urbaine, parce que j'aime beaucoup aussi marcher, regarder effectivement tout ce qu'il y a à voir dans une ville, traverser des parcs. C'est toujours inattendu quand on prend le temps de marcher en ville.
Et vous nous donnerez tout à l'heure, Sylvia Pinoza, des conseils pratiques pour bien randonner, choisir les bonnes chaussures, la bonne tenue et le bon sac à dos. Bonjour Jérémy Pelletier.
Bonjour Ali.
Co-directeur de la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes marcheur, vous ?
Très légèrement. Très légèrement.
Très légèrement. Quel est le menu de votre chronique Les Français Modes d'Emploi vers 11h20?
Et dans un moment, on parle de pape, de Vatican, de conclave et de toutes ces choses-là. Je vais parler de marcheurs invisibles, mais pourtant très nombreux, les athées. Les athées qui sont un peu en décalage du coup avec toute la séquence médiatique du moment autour du pape. Et donc, je vais essayer de rendre hommage à cette catégorie de la population tout aussi nombreuse que les marcheurs.
N'essayez surtout pas d'imiter les autres. Un petit truc pour les bottines.
Grand bien vous fasse.
Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe.
On marche, quoi.
Oui.
Sur France Inter.
Comment réussir sa randonnée ? C'est notre thème ce matin avec le mensuel Notre Temps. Tiens, écoutons le généticien Axel Kahn en 2013 sur France Inter.
Ce que je veux, c'est que je puisse disposer de ces heures de marche, on va dire entre 6 heures et 7 heures de marche par jour. Et là, je veux être seul pour profiter du temps, du vent, de la pluie, des fleurs, des oiseaux, de moi-même, du chemin que je remplis avec les idées que j'y mets. Et ce serait certainement difficile d'y parvenir avec quelqu'un d'autre. En revanche, je compte bien et je suis disponible pour rencontrer des gens aux étapes. Des personnes m'ont demandé de faire un bout de chemin avec moi, j'ai refusé. Il y a mon petit-fils, par exemple, qui aurait bien aimé aller avec son grand-père pour faire une ou deux étapes. S'il y parvient, évidemment, je voyagerai avec lui. Mais c'est la seule entorse que je m'autorise à ce désir de cheminer seul, pour penser seul en cheminant.
Le regretté généticien Axel Kahn en 2013 sur France Inter. Réaction Hugues Lebret sur cette marche solitaire. Je rappelle que vous publiez Le chemin de soi, une traversée des Pyrénées par le GR10.
En fait, j'ai fait l'expérience avec quelqu'un. C'est-à-dire que j'ai un ami qui m'a rejoint. J'ai traversé les Pyrénées donc seul pendant 47 jours, mais j'ai un ami qui m'a rejoint 4 jours au milieu. Et j'ai trouvé que c'était agréable de marcher avec un ami et qu'on pouvait avoir des discussions très profondes sur nos vies personnelles, etc. et vraiment échanger, et que c'était un moment qui était exceptionnel. Mais j'étais très content, quand il est parti au bout de 4 jours, de me retrouver et de retrouver cette communion avec la nature, de retrouver tout cet éveil des sens. J'ai vu beaucoup moins d'oiseaux, j'ai entendu beaucoup moins de rivières et de vent dans les arbres quand il était avec moi. Les deux sont deux belles expériences, mais très différentes, et la marche seule a une dimension exceptionnelle que l'on ne retrouve pas quand on est deux.
Et vous, Laurent Tillon, je rappelle que vous êtes biologiste et chargé de mission à l'Office national des forêts.
Moi, je rejoins complètement ce que vient de dire Hugues sur le caractère très solitaire de la randonnée et la manière dont on peut vivre vraiment sa randonnée. Et à chaque fois que je suis avec quelqu'un d'autre qui m'accompagne, je vis toujours les choses de manière totalement différente. Je vous disais tout à l'heure que j'étais le week-end dernier avec des amis naturalistes et on a vécu notre expérience de la nature et de la montagne en la partageant. Et par ailleurs, il y a des moments où je partage aussi ma randonnée avec notamment ma fille qui a 11 ans et qui a un regard très naïf sur ce qui nous entoure et qui, moi, m'ouvre à nouveau vers l'enfance et vers ce que je pouvais vivre quand j'y allais en forêt avec ma famille.
En tout cas, c'est un plaisir. J'ai eu la chance de randonner avec vous, Laurent Tillon, et c'est vrai que grâce à vous, il faudrait avoir un chargé de mission à l'ONF en permanence avec soi, parce qu'on voit des choses que simples mortels, nous ne voyons pas. C'est vrai que c'est assez extraordinaire de se balader en forêt avec vous, parce qu'il y a des odeurs, des choses qu'on ne voit pas, et c'est assez magique.
On ne se rend pas compte de tout ce qui se passe tout autour de nous. Notamment quand on navigue en forêt, on est face à un milieu qui est très très calme, qui est très très doux. Parfois, un petit peu de vent fait bruisser les feuilles. Mais il se passe une multitude de choses et tous les arbres qui sont autour de nous participent justement à toute une vie de la forêt. Je citerai juste un exemple. Actuellement, là, en ce moment, quand vous allez vous promener en forêt, vous bénéficiez du travail que les arbres font pour se défendre, notamment face aux chenilles qui tentent de les manger, de manger les feuilles. Et ça contribue, et c'est mesuré physiologiquement, ça contribue à renforcer notre système immunitaire, à renforcer l'abaissement du cortisol qui est cette hormone du stress chronique et qui fait qu'on se fait du bien aussi physiologiquement et les arbres nous aident à ça. Ce qui est intéressant, c'est de tenter de se promener, d'être attentif un peu à ces phénomènes. Si on entend qu'il pleut alors que là en ce moment le ciel est bleu, aujourd'hui le ciel est voilà, on a un grand ciel bleu, si on entend une petite pluie, c'est qu'il y a ces fameuses chenilles qui crottent pour tenter de se débarrasser des systèmes de défense que les arbres mettent en place, et ben ça, c'est la preuve qu'on se fait du bien.
Frédéric Montoya, je rappelle que vous êtes président de la Fédération Française de Randonnée. Quand on adhère à votre fédération, c'est pour la convivialité, c'est pas pour marcher seul.
Oui, mais en même temps, en écoutant vos invités, on voit qu'au travers de la randonnée, chacun peut y trouver son plaisir. Celui qui va vouloir marcher seul, effectivement, 3500 clubs, les gens marchent plutôt en groupe, mais on va trouver tout type de randonnée. Celui qui va se faire des défis personnels, celui qui va être plutôt orienté nature, on le disait tout à l'heure, celui qui va être à la recherche du patrimoine. Moi, personnellement, j'aime bien le mix de tout ça. Donc, en marchant en groupe, des fois, je m'isole. Où j'impose à mon groupe des moments de silence, quand ça parle trop, en disant écoutez la nature, parce que c'est bien. Et donc, dans ces clubs, on est un peu formé aussi pour ça. Tout un chacun peut y trouver son bonheur, c'est ce qui est important.
Oui. Sylvia Pinoza, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du hors-série de Notre Temps consacré à la marche. Une bonne randonnée, c'est aussi un bon matériel. Évidemment, quand on va traverser les Pyrénées pendant plusieurs jours, eh bien, ce n'est pas exactement le même matériel que pour une balade en forêt de quelques heures. Être bien chaussé, c'est essentiel pour marcher sans douleur et éviter les blessures. Premier conseil peut-être, Sylvia Pinoza, quand on choisit une paire, c'est tout bête, mais les orteils ne doivent pas toucher le bout. Et il faut avoir la place de bouger ses pieds.
Voilà, donc on conseille effectivement les pieds, les chaussures, c'est un peu comme les pneus ou les amortisseurs de la voiture. Elles permettent à la fois de moins se fatiguer, de limiter les risques d'accident. Et donc, première vigilance, c'est effectivement de ne pas toucher le bout de sa chaussure quand on les enfile. Et donc, le mieux, c'est peut-être de prendre une pointure de plus que celle de nos chaussures de ville, pour que le pied, s'il gonfle dans la journée parce qu'on a beaucoup marché, parce qu'on a eu chaud, nos petits orteils ne frottent pas contre le bout de la chaussure.
Et les talons ne doivent pas se soulever dans la chaussure. Et puis, il ne faut surtout pas se dire, tiens, les choses vont se faire avec le temps. Sylvia Pinoza.
Voilà, on veillera également aussi à ne pas avoir des coutures qui sont trop saillantes, qui pourraient blesser le pied.
Oui, donc il ne faut pas se dire que la chaussure va s'adapter à nous. Il faut choisir dès le départ une bonne paire de chaussures. Hugues Le Bretin, vous en avez fait l'expérience au cours de votre traversée des Pyrénées.
En fait, il faut bichonner ses pieds. Alors c'est vrai qu'il faut des chaussures qui ont une taille de plus, notamment quand on descend, qu'on est pas mal aux orteils systématiquement. C'est vrai qu'il faut bien serrer les chaussures parce qu'il ne faut pas que le talon se décolle quand on monte, sinon il y a des frottements et on peut avoir des ampoules. Et il faut une deuxième paire de lacets parce qu'on serre fort plusieurs fois par jour. Mais ses pieds, il faut les écouter. Et de temps en temps, on sent une petite rougeur et on continue. Et le cerveau dit, je continue parce que je suis bien et je marche. Mais il faut s'arrêter, il faut ouvrir, il faut arrêter. Et en fait, il faut les aérer plusieurs fois par jour. Et c'est sa monture. Donc il faut les
Frédéric Montoya.
Si je peux me permettre de rajouter un conseil. Parfois, pour quelques dizaines d'euros supplémentaires dans le choix d'une paire de chaussures, prenez des paires de chaussures étanches. Ne serait-ce que la rosée matinale, ça peut mouiller le pied pour toute la journée. Et je peux vous assurer que c'est désagréable. Et donc, il ne faut pas hésiter à ce niveau-là.
Alors, si on fait une randonnée de quelques jours en montagne, avec des dénivelés de 1000 à 2000 mètres, vous avez connu ça, Hugues Lemret, mieux vaut miser sur des semelles rigides et résistantes à l'usure. En revanche, pour les promenades d'une journée sur des sentiers ou des chemins qui affichent un faible dénivelé, on peut choisir des semelles moins rigides et plus larges. Vous confirmez autour de la table ?
Oui, quand on fait de la haute montagne, il faut avoir des chaussures hautes avec des semelles rigides. Et puis quand on marche avec des amis, on peut avoir des chaussures de sport beaucoup plus légères. Bourville.
Et les chaussettes, très importantes, mieux vaut éviter le coton, hein ?
Alors, il y a des chaussettes techniques. Alors, oui, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai toujours les chaussettes techniques dans le magasin.
Sont rarement en coton.
Double peau ou pas, les deux sont très très bien. Mais ce que je conseille, c'est effectivement de mettre de la crème anti-frottement sur les pieds avant de partir.
En tout cas, préserver vos pieds, c'était presque une obsession lors de votre traversée des Pyrénées. Vous le racontez dans votre livre.
Oui, parce que si on a une égratignure, si on a une tendinite, si on a une chaussure qui craque, etc., la randonnée s'arrête et puis l'objectif est fini.
Et les chaussures restent nos meilleurs amis en randonnée. Et vous soulignez tout à l'heure le phénomène de la descente, Hugues. C'est important de bien serrer sa chaussure et d'être en même temps bien. On peut aussi conseiller les bâtons. Moi, je marche pas avec les bâtons, mais la descente, ça amortit bien. 1500 kilos centimètres carrés sur le genou. Mm-hmm. Quand on descend, ça fait quand même une force qui s'appuie.
Les bâtons, ça aide à la montée. Ça stabilise la descente, mais c'est indispensable pour traverser les rivières. Quand les rivières sont abondantes, notamment au mois de juin, après les fontes des neiges, il y a des rivières qu'on ne peut pas traverser avec le courant si on n'a pas, les bâtons. Et puis, il faut prévoir une deuxième paire de lacets, parce que comme on enlève, on met ses chaussures et qu'on serre fort, si on marche longtemps, les lacets cassent au bout de 40 jours. Donc, il en faut une deuxième, si on est mal.
Jérémy Pelletier, co-directeur de la Fondation Jean Jaurès.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que si la marche et si la randonnée est aussi populaire, a autant d'adhérents, c'est aussi que des marques et des enseignes ont permis aussi la démocratisation justement du matériel dont on parle. On parle des chaussures, vous parliez du fait de mettre un dizaine d'euros supplémentaires peut-être pour avoir une meilleure paire de chaussures. Très intéressant quand vous regardez dans les marques préférées des Français, les enseignes les plus populaires, il y a Decathlon. Et évidemment, je crois que cette enseigne-là a beaucoup participé à la démocratisation de la marche, la démocratisation de la randonnée, a beaucoup fait en sorte qu'un public peut-être de classe moyenne inférieure, ait justement accès à du matériel de qualité qui est nécessaire et qui est essentiel justement pour s'adonner à la randonnée et la marche. Et je pense que du coup, on joue aussi un rôle pour donner accès justement à tout un large public à cette marche qui nécessite en effet du matériel de bonne qualité.
Frédéric Montoya.
Vous avez raison, on est dans un écosystème où tant en termes de matériel pour s'équiper, mais aussi que d'hébergement sur le terrain, on joue un rôle économique. Je me permets quand même de rajouter que s'il y a un engouement tel au niveau de la randonnée, et je rends hommage ici à votre antenne, aux 9500 bénévoles qui entretiennent en France 226 000 km de sentier.
Laurent Tillon.
Moi, je suis très adepte, en tout cas, je suis très, très attentif, effectivement, à mes pieds et à tout ce qui se passe en bas, jusqu'à la cheville. Et moi, je suis plutôt adepte de la chaussure montante, même en fonction du type de randonnée, quitte à prendre une chaussure très légère, mais quand même montante, pour bien tenir la cheville, parce que je trouve que c'est un élément qui est très, très important aussi au moment où on randonne. Et puis, avec un deuxième effet, parce que la cheville, le prolongement, c'est la jambe, et d'avoir systématiquement un pantalon pour bien protéger les jambes au moment où on randonne et qui épouse bien le bas de la chaussure montante, c'est un élément qui est quand même important aussi pour éviter que certaines petites bêtes ne viennent vous piquer le bas des jambes. Ça peut rendre la randonnée parfois un peu désagréable.
Notamment les tiques ?
Notamment les tiques qui peuvent être vecteurs de certaines maladies un peu embêtantes, un peu immobilisantes. Et donc, le fait d'avoir un pantalon long et des chaussures montantes, vous évitez la majeure partie des risques de piqûres de tiques.
Sylvia Pinot, pour la tenue, mieux vaut opter pour la technique de l'oignon, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. De plusieurs couches. Trois, c'est la meilleure solution. Première couche, une respirante qui va permettre à la transpiration de s'évaporer au fil de la rando. Une deuxième couche un peu plus chaude, genre polaire ou doudoune, qui va toute l'année nous permettre d'avoir un petit peu plus chaud. Et puis finalement, troisième couche de l'oignon, une couche isolante qui va permettre à la fois de nous isoler du vent, de la pluie, et qui va là aussi faciliter l'évacuation de la transpiration. Et ne pas oublier également sur la tête un chapeau ou une casquette pour le soleil, mais aussi, comme disait Laurent tout à l'heure, pour les tiques qui pourraient s'accrocher sur notre tête.
Hugues Levrette.
Alors, moi, je suis adepte de deux couches plus une.
Oui.
Et en fait, j'ai fait l'expérience de mettre les trois couches. Et il y avait un énorme orage. Et même si on a une couche imperméable, etc., l'eau passe à travers. Et quand je suis arrivé dans mon refuge à Besselens, à 2700 mètres, eh bien, j'étais tout trempé. J'avais plus rien à mettre dans le refuge. Et au refuge, il chauffe pas, même si c'est l'été et même si il fait froid. Et du coup, il faut garder la deuxième couche dans un sac imperméable. Au milieu du sac, il faut tout isoler dans des sacs avec zip imperméable qu'on trouve dans les supermarchés. Et quand on marche, on a toujours chaud. C'est-à-dire, quand on a froid, on accélère, on fait marcher le cardio. Et du coup, première couche qui aspire et qui est vraiment très agréable, il faut prendre vraiment des vêtements techniques. Deuxième couche respirante et imperméable, qui colle au corps, pas les capes, etc. Et en fait, ça marche comme une combinaison de plongée sous-marine. C'est-à-dire qu'on a chaud à l'intérieur de quelque chose qui colle au corps. Et puis, garder la deuxième couche, qui est la chaude, pour quand on arrive au refuge et qu'on a froid.
Un accessoire indispensable, Sylvia Pinoza, pour une randonnée de 3 heures ou de quelques jours, c'est le sac à dos. Comment bien choisir son sac à dos? Quel est votre conseil?
Alors, je dirais qu'on oublie bien souvent, en tout cas, quand on est une femme, de choisir un sac à dos qui serait adapté à notre morphologie. Donc, faire en sorte d'avoir un sac à dos qui soit un petit peu moins long que ce qu'on trouve en général pour les hommes, c'est-à-dire avoir à peu près 3 cm de moins dans le dos. Des bretelles qui sont plus fines et chancrées pour éviter les irritations, pour ne pas être gênée au niveau de la poitrine. Et puis avoir aussi une ceinture ventrale qui soit plus large sur les côtés pour mieux épouser la forme des hanches. Donc ça me paraît super important pour quand on est une femme, de faire attention un peu à son corps pour avoir le sac bien adapté à soi.
Et les deux règles pour un sac à dos bien organisé?
Alors, il va falloir essayer de ranger plutôt ce qui est lourd en fond de sac, hein, pour que ça soit les hanches et que ça soit porté par le bas du corps, et ça va engendrer un petit peu de stabilité. Et puis tout ce dont on a besoin rapidement, c'est-à-dire la crème solaire, notre gourde, les mettre dans la partie haute ou sur les parties extérieures du sac à dos.
Hugues Levrette.
Oui, moi, alors il y a le poids du sac qui est important, et je dirais qu'il ne faut pas prendre plus de 40 litres, et il faut essayer de porter moins de 7 kilos, parce qu'on consomme 2 à 3 litres d'eau par jour quand on fait des grandes randonnées comme ça. Moi, j'ai essayé d'avoir un sac le plus léger possible, donc sans armature, très respirant, donc quasiment un sac de trek, très, très souple, mais où j'étais attaché à la fois aux hanches, à la fois à la poitrine et à la fois les épaules, comme ça, la répartition du poids était sur l'ensemble du tronc.
Beaucoup de messages, énormément de messages en ce 1er mai. Chantal qui nous écrit « Pour moi, il y a une grande différence entre randonnée et marcher. La rando est un sport, la marche, une promenade ou une utilité pour se rendre au travail ou pour faire ses courses. » Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Frédéric Montoya, de cette distinction de Chantal?
Oui, elle existe dans les faits, mais au bout du compte, c'est toujours un peu la même chose. Et tout à l'heure, on parlait de la randonnée en ville. On y travaille aussi beaucoup. Je crois que même pour se rendre au travail, on peut trouver plaisir à marcher en zone urbaine, hein, en levant un peu le nez. Bon, on est toujours un peu pressé, mais il faut prendre le temps. Et puis le côté sportif, oui, il existe. Il y a des gens qui aiment bien se fixer des défis. On a même des compétitions dans le longe-côte, les gens qui marchent dans l'eau.
C'est quoi ? Expliquez-nous un peu ce qu'est le longe-côte.
Alors, le longe-côte qui existe en mer et puis qui existe aussi en partie lacustre dans les lacs. Les gens filent une combinaison et puis ils vont marcher dans l'eau. Encadré avec des animateurs formés, parce qu'il y a des endroits où ça peut être dangereux. On connaît tous les baïnes dans l'Atlantique. Hein, et donc, la Fédération française de randonnée forme des animateurs d'OSA. Et puis, il y en a qui veulent se dépasser un peu plus. Et par exemple, le 7 et le 8 juin, on organise les championnats de France de longe-côte à 7 cette année.
C'est noté, Jérémy Pelletier.
Oui, pour répondre à l'auditrice, il y a un point commun quand même entre la marche et la randonnée, c'est le fait que les 5 sens, pour le coup, sont mobilisés. Vous en parliez tout à l'heure, c'est peut-être l'une des rares disciplines, en effet, qui permet de restimuler de nouveau l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue, voire même le goût. quand vous êtes en forêt, et dans une époque où les sens sont brutalisés par tout un tas de stimuli, et évidemment le téléphone est peut-être l'objet le plus symbolique de cela, je pense qu'il y a quand même en effet un point commun entre la marche et la randonnée, et qui permettent justement ça, de restimuler en effet les cinq sens, et ce qui du coup rend très utile, j'imagine, la marche et la randonnée, notamment pour des jeunes enfants, pour justement apprendre à utiliser leurs cinq sens.
Tiens, François nous écrit, que pensez-vous de la marche avec de la musique dans les oreilles? Je marche toujours en écoutant des chansons. C'était votre cas, vous, Globat, dans votre traversée des Pyrénées?
Non, moi j'aime la musique de la nature, mais je comprends tout à fait qu'on le fasse. Alors je fais aussi beaucoup de vélo, et j'ai des amis, quand on fait un grand col, qui écoutent de la musique, et là ça leur permet de s'évader et de moins souffrir. Non, chacun son plaisir, c'est-à-dire que moi j'ai plus de plaisir à écouter la nature. Je comprends tout à fait qu'on puisse avoir des moments de grande joie, écouter de la musique en marchant dans la nature.
À propos de joie, Hugues Lebret, dans votre périple dans les Pyrénées, vous connaissez des moments de bonheur intense, notamment quand vous apercevez le pic du Midi d'Ossau à 2884 mètres, une vue qui vous donne des ailes et qui vous met en appétit pour les jours suivants.
Oui, parce que moi je partais assez tôt le matin, vers 5h du matin, et parce que j'adore le petit lever du jour et le concert des passereaux, une quarantaine d'oiseaux différents, un quart d'heure avant le lever du jour, et ça dure une demi-heure, on a son concert privé matinal. Mais ensuite, on marche beaucoup en forêt pendant plus de deux heures, et puis ensuite, on passe les lisières, et donc là, on a une première extase avec les estives, l'herbe verte tendre, les rayons du soleil qui sont rasants. Juste avant, on a la caresse du soleil rose sur les cimes, et puis on marche, on avance, et au bout de 4-5 heures, où on voit toute la vallée qu'on a grimpée, et on voit le col auquel on arrive, on est habitué à cette vallée, et puis on passe le col, et là on découvre la vallée d'après. Et le moment, c'est vrai, de plus forte émotion que j'ai vécu dans cette traversée des Pyrénées, c'est le moment où on passe ce col et qu'on voit le pic du Midi d'Ossau. On s'y attend pas du tout, et il se dresse comme ça devant vous, majestueux, lumineux, extraordinaire, et avec un petit lac au-dessous où il se reflète dedans, et c'est un paysage qui est tout simplement somptueux. Et là, on a un moment d'extase, on a marché 5 heures, on est complètement libéré, on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps, on quitte une vallée qui était déjà merveilleuse, et on a un feu d'artifice en face de soi.
Et vous écrivez que vous ne cherchez pas l'exploit, que vous ne visez pas les sommets, et je vous cite, « Je fuis la banalité et trouve mon bonheur dans le retour à la nature et la frugalité. J'aime m'émerveiller, laisser vaguer l'arborescence de mes pensées. »
Oui, j'ai cette partie « Je ne cherche pas l'exploit », et puis c'est vrai que j'ai aussi tenté pas mal de petits moments de poésie sur les arbres, sur les rivières, etc. Et j'aimais ralentir le temps. Et c'est une raison pour laquelle je partais tôt le matin, c'était pour me dire, ça m'est égal de marcher 6, 8 ou 10 heures pour la même distance, parce que si j'ai un moment où je suis vraiment heureux, si je suis vraiment bien dans un col, dans une forêt, si j'ai envie de regarder un arbre, si j'ai envie de regarder des fourmis grimper sur l'écorce, eh bien je m'arrête. Et du coup, j'ai toute la vie devant moi, parce qu'en partant à 5 heures du matin, si on marche 10 heures, on arrive à 15 heures. Et si on marche 12 heures, on arrive à 17 heures, c'est pas grave.
Laurent Tillon.
Ouais, je peux réagir avec deux éléments. Je pense que c'est important, quand on prévoit une randonnée, de se donner de la marge. Vous prévoyez une randonnée de 3 heures, donnez-vous 6 heures pour la faire, pour vous offrir des opportunités, justement, soit de vous perdre, d'ailleurs, dans certains moments, en ayant laissé le téléphone et en ayant juste la carte papier, d'essayer de se repérer aux éléments qui sont autour de vous pour retrouver votre chemin. C'est un élément important parce qu'on développe plein de compétences et des capacités particulières, et notamment une attention et une écoute à ce qui nous entoure. Et le deuxième élément, moi j'adore associer à mes randonnées des moments d'arrêt contemplatif, à simplement observer ce qui se passe. Et parfois vous vous dites, mais je vais m'arrêter ici parce que l'endroit me plaît, vous vous envisagez un arrêt de 10 minutes, vous y restez une heure, et vous commencez à observer d'ailleurs les autres vivants qui sont autour de vous, des mésanges, des pics, des oiseaux, des insectes, qui viennent autour de vous et qui vous ont presque assimilé à leur environnement. Vous faites partie des meubles que eux ont l'habitude de côtoyer, voilà. Et là, vous vous êtes glissé complètement dans votre environnement.
Les pauses font partie des meilleurs moments de la journée. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'arrêter, il faut savoir mettre les pieds dans l'eau, faire une petite sieste, il faut savoir vraiment ne pas se dire « j'ai l'objectif d'arriver le plus vite possible au point d'arrêt ». C'est le chemin qui compte, et c'est la lenteur du chemin qui fait la beauté de la randonnée.
Frédéric Montoya.
Alors merci Hugues, moi qui suis un contemplatif, je me retrouve tout à fait dans vos propos. On a évoqué tout à l'heure la pratique, le jour J, où on marche. Là, on peut dire aussi un mot, et vous l'évoquez, sur la préparation. C'est important, hein, de bien préparer sa randonnée. de savoir pas surestimer ses forces, quel est le but de la randonnée. Et j'en profite de votre antenne pour vous dire qu'on a une collection de 250 titres de topo guides hein, qui aident, qui font rêver. Hein, la préparation de la randonnée, ça fait partie intégrante aussi de la balade, qu'on soit en itinérance ou à la journée.
Avant de partir, il faut lire les topo guides, hein, voilà. C'est ce que j'ai fait, c'est indispensable.
Voilà, et puis aussi, nous, on est très attachés à la sécurité, toujours consulter la météo avant de partir. Mmh. Toujours consulter la météo.
Ça, c'est fondamental. Hugues Lebret, plaisir décuplé quand vous randonnez à proximité de cours d'eau, je vous cite page 107, les rivières roulent des épaules, les gaves dansent entre les rochers, les ruisseaux jouent de la pente, frémissent, râlent ou chantent, ils se précipitent ou se faufilent dans leur lit, les cascades frappent, les torrents grondent.
Oui, mais c'est ce que j'appelais la poésie tout à l'heure. Je fais la même chose avec les arbres, je fais la même chose sur beaucoup de petits thèmes. Ça fait partie de la musique du matin. Et on a tous les sens qui sont éveillés. On marche seul. Moi, je partais de nuit. Et du coup, je disais tout à l'heure, j'ai ce concert de passereaux. Mais il y a aussi la musique des rivières. Et c'est vrai qu'elles soient abondantes, qu'elles soient pentues, qu'elles soient torrents, etc. Elles sont très différentes. Et vous passez une épaule et tous les sons changent. Et vous rajoutez le vent dans les arbres, vous rajoutez les odeurs. Moi, j'ai croisé un œnologue, et j'en parle dans le livre sur le GR10. Lui, il me dit qu'il reconnaît les arbres à leur odeur. Alors, j'étais sidéré parce que lui, c'est un nez.
C'est votre cas, Laurent Tillon. Hein,
oui, aux odeurs et puis à tout ce qu'ils produisent, exactement.
Hugues Lebret, il ne faut pas oublier les journées de ras-le-bol. Quand vous marchez, par exemple, dans une forêt sombre au cours d'un orage, ça se passe entre le pic du Marboré et les vallées des Gaves. Je vous cite, la descente est longue, infernale, elle me casse les pieds, les doigts me brûlent. Marcher n'est pas toujours une partie de plaisir, et ça, il faut l'intégrer
oui, quand on randonne. Alors, quand on marche en haute montagne, et qu'on grimpe, c'est vrai que j'avais des journées à 2000 mètres de dénivelé, même si la moyenne était plutôt 1200, mais c'est quand même beaucoup. Mais il y a des jours où on fait 1800 mètres de dénivelé dans des pentes très très raides, où il y a les pierres qui roulent, où on doit faire des pas. Et c'est vrai que les pieds en ont marre au bout d'un moment. Et le moment, alors d'où l'importance d'avoir des chaussures un peu plus grandes. Et ben là, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et puis dire, ben voilà, j'ai marché une heure, ça chauffe, je m'arrête, je mets les pieds dans l'eau, je mange une pomme, je regarde le paysage et puis on repart. Mais c'est vrai que les descentes sont les moments pénibles. Il y a trois choses pénibles dans les randonnées en grande montagne. Il y a le brouillard, puisque là, ça gâche le plaisir et puis on voit plus rien. Il y a les orages, parce que c'est dangereux, il faut vraiment se mettre à l'abri. Et puis, il y a les dénivelés très très raides, très longs. Si c'est très raide pendant 500 mètres, ça va, mais si c'est très raide pendant 1800 mètres de dénivelé d'affilée, c'est très dur.
Et Raymond nous écrit une information pour vos auditeurs, on ne randonne pas en montagne sans un minimum de sécurité. Une excellente adresse, c'est le Club Alpin Français qui apprend à ses adhérents la beauté de la montagne, comment randonner en toute sécurité avec un dispositif de formation complet. Et la plupart du temps, c'est gratuit. Pareil à la Fédération française de randonnée.
On forme des animateurs pour marcher sur tout le territoire national et aussi avec des compléments hein, qu'on va appeler soit milieu enneigé pour l'hiver, soit milieu randonnée estivale hein, où on va avoir, où ça va mettre l'accent sur la sécurité, je le redis, qui est importante.
Il est 10h45, l'heure de retrouver la chronique Les Français modes d'emploi de Jérémy Pelletier, co-directeur de la Fondation Jean Jaurès.
Regardez Salomon, regardez.
Quand bien vous fasse.
C'est net, c'est silencieux, il n'y a pas de fumée. C'est un Français.
Ali Rébéi.
Tu peux pas faire la queue comme tout le monde. Abruti, crétin, cocu.
Sur France Inter.
C'est ça les Français.
Alors Jérémy, ce matin, vous faites une chronique un peu particulière dans laquelle vous souhaitez rendre hommage à des personnes dont on parle relativement peu dans le débat public.
Et oui Ali, en ce jeudi 1er mai où nous célébrons légitimement tous les travailleurs de France, c'est aussi la Saint-Jérémy pour votre gouvernement, vous vérifierez.
Bonne
eh bien, j'ai voulu ce matin célébrer une autre catégorie de la population, une catégorie un peu invisible et pourtant très importante, de plus en plus grosse au fil des années, mais dont on semble pourtant se désintéresser dans une époque qui donne parfois le sentiment d'être un peu bigote. Je veux, mon cher Ali, parler des athées, ceux qui ne croient en aucun dieu et qui se moquent éperdument de toutes les histoires de religion. Je vais en parler car au cas où vous ne seriez pas au courant, le pape est mort, mon cher Ali, il y a peu. Et oui, le pape est mort et un nouveau doit apparaître dans les prochains jours en sortant des cheminées du Vatican. Mais ça, évidemment, tout le monde le sait, car tous les médias en ont fait leur une, ainsi que des éditions spéciales, comme si le chef du monde venait de disparaître soudainement. On a mis les drapeaux bleu-blanc-rouge en berne pour le pape. On a éteint la tour Eiffel pour le pape. L'UEFA, l'instance qui gère le football en Europe, a même demandé que chaque match de Coupe d'Europe cette semaine, dont le désormais historique Arsenal-PSG d'il y a quelques jours, débute avec une minute de silence en l'honneur du pape, comme si le football devait lui aussi s'intéresser obligatoirement à la religion. Et du coup, je me suis demandé naïvement, a-t-on le droit de ne pas être touché par la mort du pape ? La question mérite d'être posée car ça semble être le fait le plus important des derniers mois. Tout le monde y va de sa petite analyse, tous les responsables politiques y vont de leurs petits tweets et de leurs petites stories Instagram pour lui rendre hommage, comme si nous étions en train de parler d'un responsable politique. Faut-il rappeler qu'il ne s'agit que d'un chef religieux, non élu par le peuple, et dont les paroles et les actes n'ont donc aucune incidence et ne suscitent aucun intérêt chez bon nombre de nos compatriotes. Par ailleurs, les discussions et les débats autour du pape sont assez déconcertants. On se demande s'il était de droite ou de gauche, écolo ou conservateur, et on loue ses déclarations, qui ne sont pas des actes, somme toute assez banales. A-t-on besoin d'un pape pour savoir que le réchauffement climatique existe et que c'est un enjeu central ? A-t-on sérieusement attendu le pape pour avoir conscience des inégalités en matière de pauvreté dans le monde ? Avait-on besoin du pape pour savoir qu'il y a du racisme et de l'antisémitisme dans le monde ? Fallait-il sérieusement écouter le pape avant de savoir qu'il faut faire preuve d'humanité envers les migrants et les réfugiés ? À la vue de la relative banalité de toutes ces prises de position, permettez-moi d'en douter. Et cette séquence autour du pape arrive quelques mois après la réouverture de la cathédrale de Notre-Dame, considérée par le président de la République comme le symbole de la grandeur et de l'abnégation française. Notre-Dame par-ci, Notre-Dame par-là, toutes ces séquences avaient déjà duré 3 jours, et peu s'étonnait alors que l'on nous mette sous les yeux en prime time à la télévision, une espèce de messe géante dans laquelle nous devions tous nous prosterner. Eh bien, je me dis que tout cela est assez en décalage avec les convictions d'une majorité d'athées qui composent notre pays et dont on parle finalement jamais, nos responsables politiques mettant beaucoup plus de soins et d'énergie à ne pas chatouiller les croyances des uns et des autres, plutôt qu'à valoriser ceux qui ne croient pas en Dieu.
Mais Jérémy, combien pèsent ces athées dans la société française ?
Alors sachez que plus de la moitié de nos compatriotes ne se réclament d'aucune religion, bien qu'on leur rabâche que c'est le sujet central chaque jour que Dieu fait. C'est cadeau celle-ci. Et l'augmentation des athées à travers le temps, eh bien, elle est très intéressante. Quand on regarde les données de l'IFOP, on voit que 66% des Français déclaraient croire en Dieu en 1947. 66% en 1947. Ils étaient encore 56% en avril 2011. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 45%, soit une minorité de la population qui dit croire en Dieu. Quand on regarde dans le détail, les personnes les plus athées sont les 25-34 ans, 63% d'entre eux ne croient pas en Dieu, juste devant les 50-64 ans, 59% qui ne croient pas en Dieu. Les hommes sont également plus nombreux que les femmes à ne pas croire en Dieu, 59% contre 52% des femmes. Donc pourquoi parler à ce point de religion en permanence avec autant d'athées dans le pays ? D'autres chiffres que je trouve intéressants et que je vous livre. Dans la dernière vague de notre enquête annuelle Fracture française, qu'on a réalisée à la Fondation Jean Jaurès avec l'Institut Montaigne, Ipsos et Le Monde, seulement 24% des Français indiquent que la religion tient une place importante dans leur vie et 9% seulement disent se définir selon leurs convictions religieuses bien après leur nationalité, leur génération, leurs amis ou leurs passions. Ce n'est donc absolument pas un sujet ni central ni majeur pour une grande majorité de la population. Pour résumer, les croyants ne pèsent pas si lourd que ça quand on fait les comptes. Alors si j'ai un conseil à donner un jour à un responsable politique qui veut par exemple se présenter à l'élection présidentielle, c'est de ne pas oublier le service athée dans sa cuisine et dans son programme. Ça évitera de passer à côté de plus de la moitié des Français et ce fera un sujet plutôt rassembleur au moment où on cherche justement des sujets communs.
Le service athée, ça y est, je l'ai. Je vous absous, frère Jérémy.
Merci, mon frère Ali.
Merci pour cette chronique, tous les épisodes des Français mode d'emploi. Eh bien, c'est à podcaster, à partager sur l'appli Radio France.
France Inter.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Comment réussir sa randonnée, c'est notre thème ce matin avec le mensuel Notre Temps et énormément de réactions, de questions et beaucoup de femmes qui nous écrivent. Anne qui nous écrit, j'aimerais faire de longues randos seule, mais en tant que femme, j'ai un peu peur. Isabelle, randonnée en solitaire égale sport d'homme, je le dis sans aucune acrimonie, juste un peu de jalousie. J'ai peur des agressions. Beaucoup de messages dans ce sens. Sylvia Pinoza de Notre Temps. Vous consacrez d'ailleurs dans le mensuel un papier consacré à ces femmes qui marchent seules.
Oui, on a interrogé Anne-Marie qui a 70 ans et qui marche seule depuis à peu près 10 ans. Au moment de la retraite, elle a eu envie de s'élancer toute seule sur les chemins de sa Bretagne. Et donc, elle a commencé, et je pense que c'est un conseil à donner à toutes les femmes qui veulent marcher seules. Elle a commencé par faire des courts séjours de 2 ou 3 jours pour voir si elle se sentait en sécurité, si elle était à l'aise toute seule. Et puis finalement, elle a abouti au bout de quelques années à partir 10 jours, 15 jours, toute seule, en donnant son itinéraire à son mari, qui puisse la suivre de loin et à qui elle envoie tous les jours un SMS pour lui raconter un petit peu où elle en est et d'où elle est. Donc voilà, ça c'est une bonne un petit truc aussi à faire quand on veut voyager seul. Mais il y a aussi des groupes Facebook qui nous permettent aussi de trouver des femmes avec qui on peut cheminer, des petits groupes pour établir un binôme par exemple. Donc on a un groupe qui s'appelle Voyager au féminin ou Voyager au féminin 50 ans et plus. Mmh. Il y a aussi une plateforme qui s'appelle Nomad Sister, qui est réservée aux femmes et qui permet aussi de mieux organiser son séjour, sa rando en solo.
Et Valérie nous écrit également « J'adore marcher, et j'adorerais marcher seule, mais en tant que femme, je crains de m'engager seule sur des sentiers. » Frédéric Montoya, vous êtes président de la Fédération française de randonnée. Qu'est-ce qu'on peut répondre à toutes ces femmes, ces nombreuses femmes qui nous écrivent ce matin ?
Alors, nous ne sommes pas insensibles à ces problématiques. On a 61% de nos licenciés qui sont des femmes. Hein, c'est un problème important. Qui n'est pas en décalage par rapport à ce qu'on peut vivre dans la société. Je disais hors antenne qu'il y a aussi des agressions sexuelles ou autres dans les lieux d'hébergement, hein, et c'est pas que sur les chemins. Et puis, prendre des précautions, ça a été dit par Mme Spinoza, c'est toujours signaler où on est, hein, ou à l'avance de son itinéraire. Et puis je disais aussi un bon conseil, mesdames, munissez-vous d'un sifflet, parce que les messieurs agresseurs ne sont pas courageux bien souvent, et un sifflet, ça peut faire de la prévention ou faire fuir les agresseurs.
Laurent Tillon.
Oui, d'ailleurs ce sifflet, moi je sais que j'en ai un toujours, parce que comme je randonne souvent seul, parfois dans des endroits un peu escarpés, en cas de blessure, je sais qu'un coup de sifflet peut me permettre de me faire repérer.
Très très bonne astuce. Gilles qui nous écrit, ne pourrait-on pas revenir à l'essentiel ? Moi je marche avec des spartiates tout en cuir, les pieds à l'air. Bon, à titre personnel, je ne traverserai pas les Pyrénées en spartiate. Hein. Hugues Lebret.
Non, je pense que ce n'est pas adapté à de la haute montagne, voilà. Mais par contre il y a des gens qui marchent en Compostelle comme ça et ça va très bien.
Vos conseils, Laurent Tillon, pour quand on marche en forêt, quels sont les bons comportements de base ?
Le bon comportement, la bonne tenue. Bien préparer sa randonnée, s'informer aussi, c'est-à-dire que on traverse souvent des endroits qui sont intéressants pour la faune, il y a toute une biodiversité qui s'y installe, ne pas la déranger. Le meilleur moyen pour ça, c'est de rester sur les sentiers qui sont balisés, ne pas rentrer dans les parcelles pour laisser justement la faune sauvage tranquille, faire des pauses régulières, regarder un petit peu, écouter ce qui nous entoure, sentir, voilà, ouvrir ses sens. C'est l'essentiel.
Et prendre un sac plastique avec soi pour mettre ses déchets. Hein.
Ne jamais laisser ses déchets, bien entendu. Ne jamais fumer, allumer, avoir une allumette ou quoi que ce soit. Plus de 90 à 95% des feux en forêt viennent d'un mauvais comportement.
Ça paraît banal de le dire, mais en forêt, on voit encore beaucoup trop de très mauvais comportements. Hein.
Surtout à ce niveau-là, sur les incendies qui se multiplient. Là, par exemple, on est en période déjà de sécheresse pour la végétation de surface, donc il faut vraiment être très attentif.
Et on termine avec vous, Yves. Bienvenue. Vous êtes sur le chemin de Compostelle, paraît-il. Bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, je suis en train de gravir une côte, là. Je fais une petite pause. Et puis voilà, j'ai écouté votre émission, je suis habitué à vous écouter.
Ah, c'est gentil.
Mais là, je suis parti le 6 avril de Lisbonne, et dans deux jours, j'arriverai à Saint-Jacques. Et contrairement à ce que disait la personne avant, pas beaucoup de raisons religieuses qui motivent les gens, visiblement, mais une envie de nature, de se retrouver ensemble, parce que les rapports sont magnifiques. Et bon, c'est surtout en anglais ou en espagnol, moi je me débrouille. Et c'est super, on rencontre des jeunes de toute génération. Moi j'ai 70 ans bientôt, c'est mon troisième chemin de Saint-Jacques.
Et quel est votre, ça m'intéresse, votre conseil là pour terminer, on termine l'émission avec vous. Yves, le conseil pour ceux qui veulent faire le chemin de Compostelle, le conseil essentiel pour ceux qui ont envie d'entreprendre ce périple.
Oh là là, c'est dur à choisir. Hein, là.
De bonnes chaussures, c'est ça, peut-être ?
Oui, mais au-delà de l'aspect matériel qui est important, certes, mais de s'y préparer, de parler avec des gens qui l'ont fait, et de se mettre dans une certaine ambiance de dépouillement. Mais ce n'est pas de l'ascétisme. Hein, je pense à Christophe André, votre ami, qui est extraordinaire. Et voilà, et c'est des rencontres magnifiques. Voilà.
Merci beaucoup Yves de nous avoir appelés et bonne fin de périple.
Merci.
Dernier Et un dernier conseil, Hugues Barrette ?
Moi, je pense que le meilleur conseil, c'est d'essayer, et d'essayer pendant un jour, deux jours, avant d'organiser une grande randonnée, tester pendant deux, trois jours, y compris de marcher seul, et on voit si on aime ou on n'aime pas, mais en général, on est piqué par le virus.
Merci beaucoup, Hugues Barrette. Je recommande vraiment votre livre, Le chemin de soi. C'est très bien écrit, c'est passionnant, une traversée des Pyrénées par le GR10, et c'est publié aux Arènes. Merci Frédéric Montoya, président de la Fédération française de randonnée. Merci Laurent Tillon. Votre dernier livre, c'est Les fantômes de la nuit, des chauves-souris et des hommes, publié chez Actes Sud. Et merci Sylvia Pinoza, le hors-série santé et bien-être très bien fait de notre temps, qui s'appelle Marcher, mon atout santé, est disponible en kiosque.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.